Radio Barc 37e avec notre troisième partie consacrée, comme toujours, à notre invité. Je le disais succinctement au début, Jacques Proulx. Alors on va vous demander de vous présenter puis d'entrer très vite dans le vif du sujet, à savoir, vous en tant que Narbonnais, vous êtes candidat, pas encore à la présidence, mais en tout cas à la candidature de la présidence de la République. Alors d'où vous vient cette vocation soudaine, Jacques Proulx?
Tout d'abord, bonjour. Je vais me présenter. J'ai 50 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis originaire de la région Nantes. Et aujourd'hui, je suis en activité sur la région en tant que chef de secteur pour un groupe alimentaire. Pourquoi ma candidature à la fameuse candidature à l'élection présidentielle? De par mes origines et mon engagement, j'ai été élu adjoint dans une commune dans la banlieue nantaise. Je suis très engagé au niveau de mon entreprise, au niveau du comité, et je suis délégué du personnel. Et je fais partie de cette grande majorité silencieuse qui s'élève de bonne heure pour beaucoup, pour pas grand-chose à la fin du mois, où les fins de mois sont compliquées, pour des gens qui se lèvent de bonne heure pour chercher du travail à la NPE ou dans les entreprises qui n'en trouvent pas, pour les étudiants qui poursuivent les études avec un avenir un peu bouché et ils ne voient rien venir au niveau des entreprises et de l'emploi, avec une queue de plus en plus longue au niveau des restos du cœur pour pouvoir manger et se nourrir et puis s'habiller. Donc tout ça faisant, à un moment donné, m'a convaincu de dire que il fallait prendre une décision, une bonne décision. Ça veut dire que nous, majorité silencieuse, il fallait qu'on reprenne la main.
Ouais, mais entre ce constat que vous venez faire et puis la démarche que vous entamez, il y a quand même un sacré cap à franchir. Jacques Proulx, je ne vais pas vous faire l'injure de penser que vous ignorez à quoi vous vous attaquez. Vous savez très bien que c'est un monument. Il faut récolter des signatures, il faut récolter des fonds, il faut récolter des soutiens. Alors, selon quelle méthode allez-vous vous attaquer à ceci ?
Alors, il y a deux démarches. Il y a une démarche aujourd'hui qui est intégrée au niveau des réseaux sociaux via Facebook principalement, où il y a des mouvements citoyens qui se mettent en place. Moi, la candidature, elle n'est pas isolée, hein, je ne suis pas tout seul. Il y a des candidatures un peu partout, et ce qui est bien, c'est une bonne chose. L'objectif, c'est que ces mouvements citoyens qui partagent le même diagnostic et le même projet demain se regroupent. Il sera temps, à un moment donné, de définir un candidat pour regrouper l'ensemble des démarches.
Mais alors, la structure de base sur laquelle vous voulez vous appuyer, c'est quoi ?
Alors, l'organisation, c'est une structure d'abord locale, départementale et régionale, pour développer et dynamiser un mouvement citoyen sur la région, pour créer une dynamique vis-à-vis de nos collègues qui l'ont monté dans d'autres régions, à Paris, dans l'Ouest, dans l'Est, etc., pour dire aujourd'hui, nous, Languedoc-Roussillon, nous sommes présents, nous avons développé un mouvement citoyen, nous avons des choses à dire, nous avons un projet, nous avons des idées, on a de la valeur ajoutée, et voilà, on est présent.
C'est sur ce mouvement citoyen que vous allez essayer, par exemple, d'obtenir les 500 signatures d'élus.
Alors, les 500 signatures, ça va être un travail en équipe, ça c'est clair. Aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur les 500 signatures, sur des maires de grandes villes et autres, parce que je considère qu'à un moment donné, ils sont un peu, entre guillemets, intégrés, partie prenante des partis politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les maires des petites communes, qui, eux, n'ont pas d'étiquette politique, qui se bagarrent du matin jusqu'au soir pour faire vivre leur commune. Pour la plupart, c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est un véritable sacerdoce. Donc c'est sur ces maires-là que je vais m'appuyer avec un programme, un projet. Et oui, on va les prospecter, on va les dire qu'on existe via les mails, via les courriers, etc.
Une remarque, Michel Santo, qui il y a quelques semaines avait, alors de manière totalement ironique et un peu provocative, déclarait que lui-même serait président, mais sur un programme qui était tellement farfelu qu'on ne t'a pas cru, Michel.
Oui, non, mais c'est vrai, mais très honnêtement, je n'imaginais pas qu'après cette chronique très ironique sur cette... Bon, voilà, qui ironisait sur cette floraison de candidature à la présidentielle que l'on peut constater en ce moment, je n'imaginais pas que naîtrait, en fait, ou que fleurirait, pardon, une candidature narbonnaise.
Oui,
D'autant que, pour apporter, en fait, une information que peut-être notre invité ne connais pas, mais David Granel, qui était anciennement conseiller municipal de Narbonne, a été invité ici, en fait, en tant que représentant du mouvement des citoyens, justement, ce mouvement qui tente d'exister, fait, au plan régional, à travers des structures départementales. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais bon, c'est voilà un garçon qui prétend être dans cette dynamique-là, avec certains écolants, et qui d'ailleurs, bon, elle fait un site, fait, ou une page Facebook, autant que je m'en souvienne, au plan régional. Bon, je fais la parenthèse.
Alors, Jacques Proulx, donc, vous nous avez décrit le genre de structure que vous êtes en train de, enfin, à laquelle vous êtes en train d'adhérer, sur laquelle vous allez vous appuyer. Mais bien entendu, il va falloir un programme. Alors, vous avez fait ce constat que chacun a pu faire, notamment, un constat très pessimiste. Comment vous allez-vous réussir à renverser un petit peu cette tendance et à optimiser, en quelque sorte, un programme crédible ?
D'autant que il faut, non seulement il faut être élu à la présidence de la République, mais il faut aussi avoir une majorité à l'Assemblée.
Ensuite, à l'Assemblée.
Donc des députés.
Des députés.
Chaque chose en son temps. au niveau du programme, au niveau du projet, il est bien évident qu'à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne la main. Quand je dis reprendre la main, c'est bien cette majorité silencieuse. Reprendre la main, c'est sur trois axes. C'est un état de main qui est exemplaire. Dans son fonctionnement.
Oui, mais ça, tout le monde l'a dit depuis 20 ou 30 ans.
Non, mais je pense. Tout à fait. Mais ce n'est pas pour ça que dire exemplaire aujourd'hui, il faut continuer comme les gens qui le présentaient depuis 30 ans. Quand je parle d'exemplarité, c'est l'exemplarité dans la façon de faire la politique, dans l'exemplarité dans gouverner et l'équité au niveau des choix et des réformes.
Oui, mais l'exemplarité ne peut être applicable ou appliquée que s'il y a des lois qui, par exemple, sanctionnent toutes les turpitudes auxquelles on assiste aujourd'hui. Donc, comme ça se passe dans certains pays, Allemagne, Angleterre, très souvent, des ministres sont contraints de démissionner pour trois fois rien.
Alors, je pense que la 7e République a vécu. On est plutôt sur une démarche de 6e République aujourd'hui. Donc la Constitution doit changer. Quand vous parliez de victimes ou de politique non correcte, il est clair qu'à un moment donné, je ne vois pas pourquoi un président de la République, un député, un sénateur ou un député européen, on en parlait tout à l'heure, ne serait pas justifiable pendant son mandat. Moi, je considère qu'à partir du moment qu'on est élu, on représente le peuple, à partir de là, on doit être propre. Et si on est propre, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas justifiable, il n'arrivera rien. Donc un président de la République, durant son mandat, il l'était avant, pendant et après, il doit être justifiable.
Oui, c'est-à-dire, vous verriez une procédure de impeachment comme aux États-Unis, par exemple, des choses comme ça ? De destitution, pour parler français, une procédure de destitution du président ? Mais c'est pas simple.
Non, mais on le voit au Brésil. Au Brésil, ils l'ont réussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut changer. Il faut changer. Les gens, on le voit bien aujourd'hui, vous parliez de la morosité actuelle dans l'environnement économique, social. Aujourd'hui, il faut changer les choses. Alors, pour changer les choses, il faut d'abord se changer. Donc, pour se changer, il faut montrer cette exemplarité. Donc, pour moi, un président de la République doit être justifiable du départ jusqu'à la fin. Et si à un moment donné, il y a faute pendant et faute avant, il doit être destitué.
Oui, mais moralement, on le comprend et ça se justifie parfaitement. Maintenant, légalement, juridiquement, comment procéder, Michel ?
Oui, non, mais il faut. Il y a deux procédures, quoi. Hein. Bon, c'est la loi référendaire ou le vote de l'Assemblée, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale, donc du Parlement, du Congrès, en Congrès pour voter avec les 3/5, quoi. Hein, donc la majorité qualifiée pour pouvoir voter une telle réforme constitutionnelle. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à la question que je posais précédemment, mais pour ça, il faut avoir une majorité d'élus, députés et une grosse majorité. Alors, les sénateurs, le Sénat, c'est pas la peine. Bon, ils sont déjà en place.
Ils ne bougent pas.
En tout cas, bon, il faut avoir plus qu'une large majorité aujourd'hui à l'Assemblée, par l'Assemblée nationale, pour pouvoir effectivement s'engager dans ce genre de proposition et surtout de la mettre en pratique. Alors, regardez ce qui s'est passé pour Hollande qui avait promis effectivement l'élection des étrangers.
Mitterrand aussi, il avait promis.
Voilà, donc il ne peut pas. Il peut pas le faire.
Non, mais vous avez employé un mot tout à l'heure, ou l'Assemblée, ou le référendum. Le référendum, c'est le peuple. C'est lui qui doit décider en final.
Donc sur la moralité, bon, on voit à peu près ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, Jacques Proulx. Maintenant, sur le programme. Alors par exemple, on sait que l'endettement, c'est une hypothèque grave pour l'avenir. Bon, mais Ça n'empêche pas qu'on continue à s'endetter. Et tout à l'heure, Michel faisait ressortir que même quand il pleut, le président continue d'arroser, c'est-à-dire potentiellement d'augmenter cet endettement, la dette souveraine.
Alors, la dette souveraine, aujourd'hui, c'est 2100 milliards pour arrondir. Hein. C'est 96% du produit intérieur brut.
Oui, c'est-à-dire presque l'équivalent d'un PIB.
Voilà, presque l'équivalent. Les experts disent que dans la façon continue, dans 5 ans, on sera peut-être au-delà des 100. Donc, à un moment donné, je pense que là, il faut arrêter. L'État a besoin de se réformer, ça c'est clair. Alors, je ne dis pas qu'il faut dépenser toujours moins. L'objectif, c'est de dépenser mieux. Et là, il faut un audit. Et la première chose, c'est un audit de l'état de la France au niveau de la gestion de notre pays. Donc un audit.
Fait par qui? Par la Cour des comptes?
Non, par un cabinet extérieur, neutre. Alors un audit, parce qu'aujourd'hui l'État a besoin d'un tsunami d'économie, c'est vital. Et il se doit de se recentrer sur ce qui est son rôle. L'éducation, la sécurité.
Oui, les fameuses fonctions régaliennes, voilà. Comme on dit.
Savez-vous qu'aujourd'hui, sur un budget, que des économies peuvent représenter aux alentours de 5 milliards, que tout le monde connaît, mais que personne ne va faire bouger les lignes. Tout à l'heure, quand vous parlez de réforme de l'État, et principalement de réforme de l'élu. Aujourd'hui, je vais encore plus loin sur un président justifiable ou non justifiable, je vais même sur des économies d'exemplarité. C'est de dire, aujourd'hui, suppression du Sénat, on en parlait. Aujourd'hui, principalement des lois... De Gaulle s'y est cassé les dents. Aujourd'hui, on est en 2016.
Oui, alors c'est vrai.
Les choses ont évolué. Et le Sénat, aujourd'hui, ça coûte 350 millions d'euros. Pourquoi faire? On y fait quoi? Rien.
Plus que c'est un État dans l'État qui n'est contrôlé par personne.
Donc à un moment donné...
À peu près.
Donc il y a des économies d'échelle. Ça, c'est le Sénat, 350 millions d'euros. L'Assemblée nationale, c'est 550 millions d'euros. Aujourd'hui, on a deux fois plus d'élus, avec une population quatre fois moins importante aux États-Unis. On marche sur la tête.
Proportionnellement, pardon. Oui,
ouais, on marche sur la tête. Là aussi, il y a des économies d'échelle. J'ai calculé, aujourd'hui, on se compare souvent avec d'autres pays européens comme l'Allemagne et autres. Aujourd'hui, c'est 34 ou 36 ministres. C'est un budget de 540 millions nos ministres. En Allemagne, il y a 8 ministres et Mme Merkel. Là aussi, il y a un budget de 440 millions d'euros à trouver. Sur ces trois familles, le Sénat, l'Assemblée nationale, les ministres, on arrive pratiquement à 900 millions d'euros.
Oui, bon, ça fait un petit milliard, ce qui n'est pas négligeable.
C'est déjà important.
Maintenant, sur l'exemplarité, je le disais tout à l'heure...
Comparé aux 4 milliards que vient de distribuer François.
Oui, voilà. C'est judicieux de faire ressortir.
Mais
concernant justement l'exemplarité, hélas, l'Allemagne, c'est pas la France, puisque l'Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens d'un ministre qui a dû démissionner tout simplement parce qu'il avait annoncé un diplôme qu'il ne possédait pas. Lorsque la presse a découvert ce phénomène-là, le ministre a dû démissionner simplement pour un mensonge sur un diplôme qu'il n'avait pas.
Indépendamment de cela, Jean-Claude, si tu permets, aussi pour faire des comparaisons, je l'avais fait, il me semble, il y a quelque temps de cela, dans les pays nordiques, en Suède, en Norvège, un ministre a une carte bleue. Mais
oui.
Toutes ces dépenses de carte bleue sont contrôlées, effectivement,
absolument.
Par son administration, en fait,
oui.
Interne.
Oui.
Ça veut dire qu'il ne peut pas l'utiliser la carte bleue pour ses propres besoins, par exemple, au restaurant et sous l'apparence d'un dîner. Politique d'affaires,
voilà.
Faire payer le contribuable.
Exact.
Donc on est alors c'est vrai que bon,
c'est dans des systèmes totalement.
Alors, c'est vrai que c'est une culture protestante, hein. On est très 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 rigoureux sur la gestion des deniers publics et de ses propres deniers. Mais quand même, on a beaucoup de leçons effectivement de ce point de vue-là, en tout cas, à tirer de ces pays-là.
Ce qui est cocasse à ce sujet-là, c'est que la femme qui est juge d'origine norvégienne, comment ça s'appelle ?
Eva Jolie.
Quand elle est en France, elle a un comportement à la française.
Exact.
Mais quand elle retourne dans son pays d'origine, elle paie son taxi, elle
Bien
paie
sûr.
Son hôtel lorsqu'elle est chargée de mission, par exemple.
Exactement.
Donc voilà, ça c'est l'exemplarité. Mais alors Jacques Proust, un immense chantier.
Mais c'est un immense chantier. À un moment donné, faut faire preuve de...
C'est une vraie révolution, ça.
Ah je pense que... J'aime pas le terme révolution au sens sanguin. Je considère que le terme révolution, oui, on a besoin d'une vraie révolution en France. Si on n'y va pas, si on ne le fait pas maintenant, on va à la faillite. On va à la faillite, on va à la rupture. Il va à la casse, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Alors, si le changement, on l'attend encore depuis 4 décennies, avec l'alternance gauche-droite, droite-gauche, droite-gauche, si on veut continuer comme ça en 2017, la faillite, elle va arriver rapidement. Donc, oui, Il va falloir avoir des réformes de courage, des réformes courageuses, mais des réformes unitaires. On peut parler des retraites, etc. Je pense que les questions vont venir derrière. Mais à partir de là, oui, l'exemplarité, ça veut dire que c'est la réforme de l'État. Alors c'est sûr que nos politiques, à un moment donné, s'ils m'écoutent aujourd'hui, ils vont se dire, mais ben oui, ils vont surtout pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. Mais
oui,
si.
Oui, voilà. C'est
mais
ça.
Si, mais si, mais on si, va leur couper si. La branche.
Bon. Alors, si vous êtes, imaginons donc Jacques Proulx que vous deveniez candidat, donc vous vous retrouverez dans la grande tribune nationale qu'est cette candidature. Quels sont, citez-nous quelques éléments phares du programme que vous défendrez à ce moment-là, au-delà de l'exemplarité que vous venez de développer largement.
La réforme du travail. Actualité très chaude en ce moment.
Très actuelle.
Actualité. Donc la réforme du travail. Aujourd'hui, l'État n'est pas un très bon entrepreneur. Ce n'est pas son rôle. L'État, il doit déposer et définir un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, qui est la loi, liberté aux branches et aux entreprises de travailler ensemble. Je pense, il faut réviser le code du travail. Je souhaite un véritable partenariat entre les salariés et le patronat au sein de l'entreprise. Je souhaite une refonte, une force globale, responsabilité, syndicalisme entre le salarié et le patronat pour faire avancer les choses au niveau de l'entreprise. Depuis des années, on a laissé supposer ou supposer, ça c'est l'expression chez nous, de dire que le salarié et l'employeur avait des intérêts antinomiques.
Oui, c'est la lutte de classe. On est encore chez certains syndicalistes, chez certains.
Mais ce précepte est dépassé. On déresponsabilise toutes les parties. Laissons, les gens sont assez responsables pour définir le cadre. À l'intérieur du cadre, quand je dis le cadre, ce n'est pas la liberté non plus. Ça veut dire qu'il faut, à l'intérieur de ce cadre-là, il faut le respect le bien-être du salarié, la sécurité, la formation continue, la protection par rapport au licenciement pur et dur, etc. Mais laissons les entreprises, laissons les patrons et les salariés définir ce qu'ils souhaitent définir à l'intérieur de tout ça.
Or, certains syndicats, justement, considèrent, eux, que l'entreprise n'est pas à même de défendre les prestations sociales.
Oui, oui, mais en l'entendant, notre futur candidat, là, je me disais, mais mon Dieu, en fait, en ce moment, Hollande et Valls en prennent plein la tête avec la CGT qui est en train de. Qui paralyse carrément le pays avec des grèves, en fait, particulièrement dures, en fait, hein, pour ne pas dire violentes. Mais dites-moi, mais vous avez une recette, vous, pour gérer ça avec nos syndicats, notamment la CGT, qui ne veut pas entendre parler, justement, de la démocratie dans l'entreprise?
Non, mais la démocratie, il faut d'abord que... Enfin, moi, je suis partisan. Vous savez, je suis membre du CCE dans mon entreprise, je suis délégué du personnel. Donc moi, des syndicats forts dans l'entreprise, un véritable partenaire avec le patron, moi, il en faut. C'est important pour la vie d'entreprise. Par contre... On est en 2016, on n'est plus après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Le monde, l'évolution, donc à un moment donné, on n'est plus dans la lutte aujourd'hui. On est là pour définir un cadre, et à l'intérieur du cadre, comment développer de la valeur ajoutée au niveau de l'entreprise, partager les richesses, et que tout le monde s'y retrouve. Le salarié, le patron et l'entreprise, c'est l'économie demain. Il y a deux solutions, où on se met le frein là-dessus, et on se bloque sur le système et fait évoluer. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, on y va à la faillite. Donc, quand je parle d'un tsunami de réforme, il faut qu'à un moment donné, les syndicats se réforment et acceptent la réforme.
Ah bah oui, mais
parce
ça,
qu'on ira au mur.
Je ne vais pas le dire. Mais et bon, ben, ils ne veulent pas. Bon.
Et ben, le
fait.
Et ben,
là, interdire quand même les syndicats.
Ah non, j'ai pas dit que je les interdisais.
Non, je veux dire, mais par là, c'est compliqué. Non, faire avec.
J'ai pas dit que je les interdisais. Bien au contraire. Et je pense qu'à un moment donné, le vote le vote au niveau des entreprises devrait être obligatoire. Donc au contraire, qu'on leur donne du poids, qu'on leur donne de la valeur et qu'à un moment donné, qu'ils vivent dans l'entreprise et qu'il y ait un véritable partenariat et dialogue au sein de l'entreprise. C'est vital.
Oui, donc voilà un des axes essentiels.
Je voudrais simplement rajouter
oui,
une chose.
Pour terminer, oui.
Simplifions. Aujourd'hui, il y a 440 milliards de cotisations. Simplifions toute l'organisation d'un butin de salaire, un guichet unique.
Également. Voilà. En tout cas, merci Jacques Proulx d'être venu nous exposer un certain nombre, seulement un certain nombre des grandes lignes. Vous nous tiendrez, je l'espère, au courant de l'actualité, de votre actualité.
Est-ce que je peux laisser une adresse contact ?
Oui, bien sûr.
Alors, si vous souhaitez partager cette nouvelle dynamique, cette envie de trouver des solutions, ce nouveau mouvement qui s'appelle aujourd'hui « Reprenons la France pour 2017 ». Vous pouvez me contacter à reprenonslafrance2017@gmail.com, reprenonslafrance2017@gmail.com, ou sur ma page Facebook Reprendre la France. J'ai l'intention de développer une réunion publique dans les 15 jours, donc suite à vos contacts, je prendrai relation avec
voilà,
vous assez rapidement.
Que nous annoncerons sur nos ondes. Merci Jacques Proulx.
Et c'était sérieux.
Voilà, pour, absolument. Pour terminer donc ce mois de juin et cette saison Radio Barque, nous recevrons la prochaine fois Laure Dandoc, qui est co-gérante de Fontfroide. Et puis la fois d'après, c'est encore une femme que nous aurons. Cette fois-ci, c'est l'ancienne maire de Montpellier.
Alors là, Jean-Claude, je suis ravi parce que je la connais très bien.
Hélène Mandrou. Ou qui vient de sortir un livre, justement, et qui nous en parlera, j'imagine. Et après quoi, nous terminerons la saison avec Daniel Hernandez, qui lui aussi est un écrivain, qui écrit un certain nombre de polars, historiques.
Très sympathique,
ou pas.
Ouais.
Et cela nous mènera donc au bout de notre saison. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.